Vision sans action n'est qu'hallucination. Je suis Romain Maltru, cofondateur de From the Insight, agence spécialisée en OKR. Avec Visionnaire, je vous propose de découvrir les leviers des hauts dirigeants français pour transformer vos rêves en réalité. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Dorian Ciavarella. Dorian Ciavarella. Comment vas-tu, Dorian?
Bah écoute, super, et toi?
Eh bien, ça va très bien. Je suis vraiment ravi de te recevoir, comme je te le disais un peu en off. Ça fait un petit moment que je te suis, que je vois ton évolution, que je vois les levées de fonds avec Zelic. J'avais hâte de cet échange, que tu me racontes un peu ta démarche entrepreneuriale, parce qu'on a, tu vois, on suit vraiment des chemins très différents. Donc je voulais savoir d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est créé, où est-ce que tu en es. Mais avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, est-ce que tu veux bien te présenter, Dorian, s'il te plaît?
Ouais, avec plaisir. Dorian, donc CEO et cofondateur de Zelic. On a levé 5 millions d'euros en pré-seed, la société a 6 mois. On développe un logiciel à destination des commerciaux. Notre but à nous, c'est vraiment d'aider les commerciaux à améliorer leurs résultats. On a 50% de data, 50% de prospection dans l'outil. Donc tu peux créer une liste, enrichir le contact et tu vas pouvoir directement en fait passer tes appels, faire tes mails, tes SMS, tes séquences dans Zelic. On est 25 aujourd'hui, 50% de développeurs.
Okay.
On est basé à Paris, donc le headquarter est à Paris, mais on a des équipes en fait dispatchées un peu partout en France. Avant ça, j'étais cofondateur et CEO de chez Ivancy, une société qu'on a grandi de 0 à 130 salariés en 5 ans. On a fait 7 millions d'ARR, c'était une société dans l'influence marketing. Et on l'a revendu à un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG. Et à l'issue de ça, j'étais devenu le patron de l'Europe de chez Skippers. Et je suis devenu business angel, LP, j'ai investi dans les fonds. J'ai pris quelques temps pour moi pour me reposer à la maison. Et là, je suis reparti sur une nouvelle grosse aventure pour révolutionner la sales tech.
Écoute, super parcours. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça un peu plus en détail. Mais donc, tu me racontais à l'instant que tu viens d'une petite bourgade, c'est ça, dans l'Est?
Exactement.
T'es d'où toi à la base?
Donc petite ville, Béren-lès-Forbach. Donc c'est une cité de 10 000 habitants, anciennement cité la plus pauvre de France. 70% il y avait 70% auprès des jeunes de taux de chômage et 35% de taux de pauvreté. Et en fait, donc j'ai grandi dans cette ville. Ma famille, des deux côtés de mes parents, ont grandi dans cette cité. Et après, j'ai pas mal bougé parce que pour les études, donc j'ai fait 2 ans à Nancy. Mon bachelor, je l'ai fait en Lituanie. J'ai fait mon master 1 à Poitiers, mon master 2 à La Rochelle et mon master spécialisé à Paris. Donc voilà, comme tu peux voir, globe-trotteur pour les études.
Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver en Lituanie? Moi, je te pose la question parce que tu vois, quand tu viens d'un milieu comme ça où t'as pas vraiment de modèle, tu sais même pas en fait que c'est possible, tu vois, d'aller étudier à l'étranger s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a mis un peu sur le chemin. Comment ça s'est fait pour toi?
Quand j'ai fait mon bac plus 2, donc mon DUT, c'était technique de commercialisation, la spécialité. Après, pour le bachelor, il y avait plusieurs choix. Soit je rentrais en école de commerce, je faisais un concours, soit je faisais Erasmus, je partais à l'étranger, soit je faisais une licence pro. Et je me suis dit, l'anglais, c'est super important. Il faudrait que je le travaille. Donc, je vais partir à l'étranger. Et donc là, quand je regardais les différents pays, parce qu'à l'époque, mon niveau d'anglais n'était pas très élevé, j'avais pas beaucoup de choix. J'avais la Lituanie, la Belgique. Mais la Belgique, quand tu viens de la frontière allemande, c'est à proximité. Donc, c'était pas dépaysant pour moi.
C'était pas très dépaysant, ouais.
Non, l'Irlande, je voulais aller en Irlande, mais j'avais pas le niveau en anglais. Et on m'a proposé la Lituanie. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est un pays qui est en développement. C'est un pays peu cher en tant qu'étudiant. Ça va me permettre d'apprendre une nouvelle langue. Et donc j'ai appris. Alors, je dirais pas que je suis bon, hein, mais j'avais pu apprendre en tout cas le lituanien et le russe.
Ah ouais, ok.
Et donc j'ai fait un an sur place, cours intensif de langue, et ça a permis de développer mon anglais, mon lituanien et mon russe.
C'est ouf ça, ok. Donc t'es parti pour l'anglais et tu reviens pour le russe. Donc un an, t'as passé un an là-bas, c'est ça?
Ouais, j'ai passé un an sur place. Bon, in fine, il me reste que l'anglais, hein. Autant te dire que le reste, j'ai les bases des bases, hein. Je peux te faire encore des petites phrases et quelques mots, mais
bon, c'est bon. Suffisant pour, euh, pour mettre quelques piqûres à droite à gauche. Et donc, tu reviens de Lituanie, c'est ça? Tu me racontais que tu étais allé à La Rochelle aussi. Enfin, après, tu as continué à bouger.
Ouais.
Et donc, c'était toujours pour les études. Qu'est-ce que tu as étudié après?
Toujours les études. Donc DUT, technique commercialisation, bachelor. Bachelor, donc là j'avais pris plein de matières, bah, lituanien, russe, anglais. J'avais des cours de compta, de finance, d'international, voilà, c'était à la carte. Donc c'est génial. Ensuite, après ça, je suis parti à Poitiers. J'ai fait un master 1 en intelligence économique pour travailler à la DGSE. Ensuite, j'ai fait un master 2 et un MBA, donc un double diplôme à l'école de commerce de La Rochelle. Donc à l'époque, c'était Subdeco La Rochelle. Aujourd'hui, c'est Excelia. Et après, je suis parti en école de commerce à Paris. Donc j'ai fait l'ESCP en master SP entrepreneuriat. Et je suis resté à Paris.
Ok, donc et c'est à l'ESCP que tu t'es initié à l'entrepreneuriat, mais
Beaucoup plus
c'était
jeune.
ok.
Ah ouais, non, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 20 ans. J'ai monté plein de petites boîtes pendant mes études qui me permettaient de gagner plusieurs milliers d'euros par mois.
Ok.
Donc j'ai commercialisé des ceintures de pont en nylon qui restaient à 2200 kilos. J'ai vendu des bâtons de marche qui se transforment en arc. J'ai vendu des produits dans le survivalisme. Ensuite j'ai monté une junior entreprise externalisée où j'avais des clients qui étaient dans des pépinières et je vendais des business plans. Et donc tout tournait, mais c'était pas des boîtes pépites. Ça me permettait de faire de l'argent, de vivre avec ça. Mais c'était pas des licornes, quoi. Et donc quand je suis arrivé à l'ESCP, j'ai rencontré mon cofondateur Sylvain et on a lancé Ivancy ensemble. Et donc Ivancy est devenu une belle boîte parce qu'on l'a grossi de 0 à 130 salariés donc en 5 ans et qu'on a revendu avec un super bel exit. Mais voilà, j'ai commencé l'entrepreneuriat beaucoup plus jeune. Et Ivancy, j'avais 25 ans.
Ok, donc à 20 ans, tu vends des bâtons de marche qui se transforment en arc.
C'est
Ça, c'est
ça.
assez ouf. Ok, et ensuite, vous créez Ivancy, et d'où vous vient l'idée, en fait, d'Ivancy?
Ben, quand je vendais mes ceintures de pantalon et mes bâtons de marche, le patron, parce que j'ai commencé en tant que stagiaire dans cette boîte-là, et ensuite j'ai créé ma société de distribution. Mais le patron, donc Xavier, m'a dit, écoute, Dorian, moi je te laisse carte blanche, t'es autonome, fais-moi du chiffre. Et donc j'avais contacté la presse, j'ai contacté des revendeurs aux États-Unis, en Belgique, en Pologne, en Allemagne. Et en fait, je me suis dit, ok, ben, ils me font du réassort, mais comment faire en sorte qu'ils me commandent plus de produits? Et la seule chose qui peut faire commander plus de produits, c'est qu'il y ait plus d'achats chez eux, donc qu'il y ait une meilleure notoriété pour mes produits, donc de meilleure visibilité. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est envoyer ces ceintures de pantalon et ces bâtons de marche à des youtubeurs. Et donc, je mettais un code promo, et donc je voyais le nombre d'achats qui étaient réalisés sur notre PrestaShop à nous, et ensuite les revendeurs commandaient plus de produits parce qu'il y avait plus d'intérêt, parce que le produit se développait. Et donc j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête, et je me suis dit, alors je te parle de ça, ça date, hein, c'était 2014. Hein,
Ce que tu me dis,
ouais,
c'est que ça fait comme un cercle vertueux en fait. Il y a non seulement les gens qui ont acheté à travers les codes promo des vidéos et les revendeurs qui ont vu qu'il y avait plus d'intérêt grâce aux vidéos qui commandaient davantage, c'est ça?
exactement.
Ok, double effet qui se coule.
Exactement. Et donc, je m'étais dit, ben, génial, ça cartonne, ça fonctionne super bien. Mais ce qu'il faut, c'est que je monte ça à échelle. Et parce que je le faisais manuellement, je cherchais sur YouTube un par un, outdoor, chasse, pêche. Et je me suis dit, ben, il faut digitaliser ça. Et j'en ai parlé en école de commerce à Sylvain. Et on a décidé de lancer le projet tous les deux ensemble. Et après, c'est allé très vite.
Parce que Sylvain, il a plus un profil tech, c'est ça ou...
Non, pas du tout. On est tous les deux écoles de commerce.
Ok.
On n'a pas de pro background tech. On a fait une formation de wagon, mais autant te dire qu'on savait pas coder.
Ok.
Donc la formation était top, mais c'était une formation nous réduite sur 2 semaines. Donc en fait, en 2 semaines, c'est une formation réduite et c'est difficile de monter un site. Par contre, on avait appris à bootstrap un site.
Ok.
Donc pour faire vraiment un site vitrine, on avait appris à le faire. Mais pour créer une plateforme, on n'avait pas les compétences pour pouvoir le faire. Donc, on s'est entouré après de stagiaires tech, un premier de l'école 42, et cette personne-là qui nous a construit les premières briques pour commencer à vendre la solution.
Ok, et à ce moment-là, vous, comment est-ce que vous l'avez payé, ce stagiaire?
Ben, en fait, le stagiaire, il est arrivé, on devait être fin 2016, donc on faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires.
Ok, quand même.
Parce que
Sans
on était
plateforme,
encore
du coup.
étudiants. Ouais, parce qu'on s'est lancé en juin 2016.
Ok.
juin 2016 à décembre 2016, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires.
Ok.
On était encore étudiant. Et à ce moment-là, on a pris un stagiaire où on pouvait payer 600 euros par mois pendant 6 mois. Et en fait, le but, c'est que s'il développait bien et qu'il était bon, eh bien, en fait, il passerait CTO et il aurait des pourcentages de la boîte. Et
Ok.
donc, il nous a monté les premières briques. Et de fil en aiguille, en fait, on a changé de CTO. Et donc, voilà, on a continué de faire l'aventure, mais tous les deux, on n'avait aucun background tech.
C'est marrant ça. Et comment est-ce que vous avez fait votre chiffre d'affaires à la base? C'était comment vous faisiez l'argent du coup s'il n'y avait pas encore la plateforme?
Ben, le business nous le permettait parce que comme on était sur de l'influence marketing, quand tu as des influenceurs et des marques, tu peux les faire travailler ensemble, mais tu n'as pas besoin de plateforme.
Ok.
Donc en fait, on faisait des campagnes, 15 influenceurs, c'était 500 euros la
Ok.
campagne, et donc on vendait directement. Donc moi, je faisais du cold calling, j'appelais des gens sur KissKissBankBank et Kickstarter. Je vendais ma solution, ben, mes campagnes, et donc j'ai fait mon chiffre d'affaires. Et en 2017, on a eu notre premier outil qui est sorti en bêta, et là, on a fait x10 en chiffre d'affaires parce qu'on est passé de 30 000 euros à 340 000 euros.
Ok.
On a fait une croissance voilà, vraiment rapide et on avait les premières briques de l'outil qui étaient déjà utilisables.
Et qu'est-ce qui explique cette croissance du coup? C'est que au lieu de le faire à la mano, tout se faisait automatiquement, c'est ça?
Ben, la gestion est beaucoup plus rapide, donc la gestion est automatisée. Donc c'est beaucoup plus facile pour Sylvain et après pour les CSM qu'on a en interne. Pour moi, pour la vente, c'est aussi beaucoup plus sexy parce qu'ils ont une plateforme à utiliser eux-mêmes. Le marché de l'influence continue de se développer, donc en fait c'était de plus en plus tendance. Il y avait un concurrent qui avait évangélisé avant nous le marché, donc on arrivait, on n'était pas les premiers, donc on n'avait pas besoin de pitcher, parce que c'était l'influence marketing et notre façon de travailler. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer la boîte assez rapidement.
Il y a aussi une question finalement d'arriver au bon moment.
J'ai pas entendu.
Ouais, pardon, il y a aussi une question en fait d'arriver au bon moment, c'est ça, c'est que bah, vous vous présentez sur un marché qui est prêt et qui vous attend à bras ouverts quasiment.
Oui et non, on était sur un raid océan. C'est-à-dire, on est arrivé sur un marché en 2017, parce que c'est 2016 où on avait notre solution, où on était les derniers sur le marché. Tout le monde existait déjà avant nous. Il y avait Octolib, Red Celebrities, Lefty, Call Square, Indash. En fait, il y avait énormément de boîtes et nous, on est arrivé comme un cheveu sur la soupe et on était les derniers sur le marché. Et pourtant, on a été les plus gros à la fin, 5 ans après.
Mais
Et donc, c'est grâce à l'exécution. Mais
comment
c'était
t'expliques
dû.
ça du coup?
Pour moi, la chose la plus importante, c'est tes people. En fait, une levée, tout le monde peut la faire. Un prix, tout le monde peut le copier. Une plateforme, on peut la copier. La seule chose qu'on ne peut pas copier, c'est tes hommes, quoi. Au grand H, hein, donc je mets hommes et femmes dedans. Mais c'est ton humain. Et en fait, ton humain, tu ne peux pas le copier. Et donc, si tu recrutes les bonnes personnes qui font une bonne exécution, eh ben, ça t'augmente les chances de succès. Donc, je pense que c'est vraiment l'entourage. Et après, avec Sylvain, on était un bon binôme. On savait bien travailler ensemble, on était vraiment complémentaires. Et ça, c'est une des clés de succès aussi.
Ouais, justement, je voulais qu'on aborde ce sujet parce que tu évoques le fait que vous êtes passé de 0 à 130 en 5 ans. Et j'imagine que ça s'est fait un peu par étape, par palier. Donc il y a peut-être le premier salarié, ensuite les 10 premiers. Et à chaque fois, il y a aussi une question, tu sais, de la culture, en fait. Comment est-ce que tu maintiens la culture d'entreprise quand ça grandit? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, cette montée en recrutement? Est-ce que ça s'est fait d'un coup? Est-ce que ça s'est fait crescendo? Et comment vous avez maintenu tout le monde on board?
Ouais, c'était pas facile. Tu as des étapes 0 à 25, 25 à 50, 50 à 100, 100 et plus. Donc tu as différentes étapes. En fonction de chaque étape, en fait, tu vas avoir des managers à mettre. Donc tu as du middle management. Ensuite, tu as tes heads et après tu as tes C-level. Donc team leads, head of, C-level. Ou VP. Si ta boîte elle grossit encore, tu peux avoir avant tes C-level un rang VP. Comment on a créé la culture? Écoute, au début, on n'avait pas de culture. Au début, moi, ce que je disais, c'est on vend. On vend, on fait du chiffre. Il faut que la boîte, elle grossisse. Oui, la culture, les valeurs, pourquoi pas, mais il faut signer. Et en
Donc
fait,
les
comme on
premiers
n'a
que tu as
jamais.
recrutés, c'était des commerciaux, c'est ça?
C'est moi qui vendais, hein, les 340 000 euros dont je t'ai dit, c'est moi qui les vends, c'est moi qui faisais les
Ok,
chiffres.
ok,
Hein. Ouais.
ok.
Les commerciaux sont arrivés l'année d'après, sont arrivés en 2018.
D'accord.
Mais pas de valeur, pas de culture. Pas de vision. On avait juste une idée de marché, un concurrent à targeter, et on allait là-dessus. Après, ce qui nous a fait créer la culture et les valeurs, c'est, je me rappelle, on était 20, dont les 20, on devait être 10 stagiaires, je pense, pas loin. Même plus. Et en fait, il y a ma bras droit qui était une stagiaire qui était hyper smart, qui me dit, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de valeur. Et je dis oui, mais là, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, c'est le plus important. Moi, j'ai jamais été employé, j'ai fait de l'alternance, ça a duré quelques mois, la boîte, elle avait coulé. Je ne connaissais pas ce que c'était une culture de boîte, on en parlait beaucoup moins il y a quelques années. Sylvain avait travaillé en alternance chez Orange, mais pareil, c'est notre premier vrai développement. On n'avait jamais été CDI dans une startup ou une scale-up. Et donc, on ne savait pas ce que c'était. Et je me rappelle un jour, il y a une société qui venait chez nous qui s'appelait Fly the Nest pour travailler ce sujet vision, valeur, culture. Elle arrive, en plus j'avais négocié pour que ce soit gratuit, parce que j'avais pas énormément de moyens à l'époque. Et elle arrive, il y a tous nos stagiaires, il y a les équipes, les quelques CDI qu'on avait. Et là, elle nous fait un cours et nous dit, ben voilà, il y a trois choses à travailler, la personne de Fly the Nest, vision, valeur, culture. Et elle pose la question à l'équipe et elle dit à l'équipe, quelles sont les valeurs, la culture, la vision d'Ivancy? Personne n'a répondu. Et ils ont dit, bon, c'est même pas ce que c'est, on nous a jamais parlé de ça. Et là, la bras droit que j'avais en stage, et elle dit, il serait bien temps de le travailler comme ce sujet, devant tout le monde.
Ok.
Et donc là, je dis rien parce qu'en soi, elle a raison. Donc je dis rien. Tout le monde est intéressé. Tout le monde donne en fait leur vision de Ivancy, qui n'était pas la vision qu'on avait nous en tant que cofondateur. Et donc on se dit, là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet à travailler.
Mais
Et
c'est marrant
donc ce
du coup,
qu'on a fait.
pardon, je t'interromps. Du coup, c'était quoi votre vision à vous et quelle était la vision de vos premiers salariés?
Bah, notre vision à nous, c'était de dire chaque personne sur Terre est influente, quel que soit son degré d'influence. Et même une personne, par exemple, qui a 10 abonnés, elle peut être influente auprès de sa famille et ses amis. Donc on avait cet aspect-là, mais l'équipe ne l'avait pas. Alors, on ne savait pas qu'il fallait communiquer la vision, on ne savait pas qu'il fallait faire une roadmap. On a appris tout ça sur le tas. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai décidé de travailler ce sujet-là. Ça m'est tenu à cœur et c'est devenu la plus grosse force d'Ivancy. En fait, le plus gros point faible que j'avais est devenu la plus grosse force de la boîte. Encore aujourd'hui, quand tu regardes mes posts ou tu demandes aux anciens d'Ivancy, ils disent mais c'était incroyable, l'histoire était incroyable, ils ont appris énormément de choses, ils ont pu avoir des super bonnes positions qu'on a vendues dans d'autres boîtes ou chez Skippers, la boîte qui nous a rachetés. On a créé des couples, on a créé des amitiés, vraiment des liens solides et franchement c'est génial. On était même dans les top 10 des boîtes Happy at Work. Et
Okay.
qu'est-ce qui a fait ça? On a discuté avec Sylvain et on s'est dit, mais quelles sont les valeurs de Ivancy? Quelles sont les valeurs que nous, on souhaite incarner? On a mis les valeurs en place, on a défini c'était quoi nos valeurs, on les a fait voter. On leur a dit, voilà les valeurs que nous, on aimerait avoir. Quelles sont les valeurs que vous voyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les valeurs qu'on pousse ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition des valeurs qu'on a mis? Une fois que l'équipe a voté, on a pris les valeurs les plus votées. Et après, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de les établir et de les communiquer. Et donc, ce qu'on a décidé de faire ensuite avec ces valeurs-là, on a décidé en fait de les mettre dans les mailings, on a décidé de les mettre dans les newsletters, on a décidé de chaque action qu'on mettait en place dans la boîte, on les mettait en avant. Par exemple, pendant le Covid, le mot d'ordre, c'était attention au cash. Faites vraiment attention au cash. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre quand même les tickets de resto en place. Alors que tout le monde nous disait, là, il faut arrêter les investissements, faites attention au budget. Et donc, nous, on est à contre-courant parce qu'une des valeurs qu'on avait, c'était employee first. Et sur cette valeur-là, donc, on a décidé de la pousser au maximum. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de faire incarner les valeurs dans Ivancy.
On dit souvent, tu sais que, enfin, je vois passer des posts sur LinkedIn où les gens se moquent un peu des entrepreneurs qui travaillent la vision, etc. Où on dit, t'es pas entrepreneur si t'as une vision, mais t'es entrepreneur si t'as des clients. À partir de quel moment tu penses que c'est important de bosser la vision? Parce que c'est
Premier
vrai que...
jour.
Ah ouais? Dès le début, tu penses?
Dès le début, tu mets les valeurs, la culture et la vision. Parce qu'en fait, les 30 premières personnes qui arrivent dans ta boîte, ça va être ton noyau solide. Tout le reste va se greffer à ton noyau. Si t'as pas le bon noyau, ou si les gens n'ont pas compris ce que tu fais dans la boîte, vers quoi tu te diriges, bah, toutes les personnes qui vont arriver après, ça va être catastrophique. Le premier jour où tu crées ta boîte, tu mets ça en place. Quel que soit le nombre d'employés que tu vas avoir, hein, que tu en aies 10, 20, 50, 200, 10 000. En fait, il faut que tu aies ce noyau solide-là qui comprenne en fait vers quoi on se dirige. Et en fait, pour moi, quand on dit c'est bullshit ou c'est que les boîtes tech ou autres, en fait, je vais être dur, mais pour moi, c'est stupide. Parce que l'histoire d'une entreprise avant tout, c'est l'humain. Et si tu n'arrives pas à l'histoire humaine, eh ben ton histoire business sera aussi compliquée au bout d'un moment. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, il faut créer ça, quoi.
C'est bien. Non, mais là, tu prêches un convaincu. Je suis content qu'on soit aligné à ce sujet. Donc ça, c'était avec vos premiers 25 salariés, on va dire, avant que vous passiez le cap. Et après, comment est-ce que vous avez fait pour que tout le monde s'approprie ces valeurs? Est-ce que c'était dès le recrutement que vous vous assuriez qu'il y avait déjà un fit? Ou est-ce que, tu sais, tu as réussi à les faire rentrer un peu au chausse-pied dans l'organisation?
Il y a deux choses. Premièrement, dans l'étape de recrutement, tu vas parler de tes valeurs et tu vas leur dire, est-ce que tu vas leur poser leur question, est-ce que c'est en raccord avec tes valeurs à toi ou pas. Il faut insister dessus. Moi, à chaque entretien, j'insiste sur les valeurs. Si tu ne fites pas avec mes valeurs, ne viens pas. Tu vois. Par exemple, les valeurs de Zelic, c'est push limite, donc tu dépasses tes limites, personnel et professionnel, tu donnes la meilleure version de toi-même. Par contre, Zelic va t'aider. Si tu as besoin de cours de langue, on te paye les cours de langue. Si tu as besoin de bouquins, on te paye les bouquins. Si tu as besoin de formation, on te paye les formations. Si tu es manager, tu veux du coaching, on te paye le coaching. Je mets 7 000 euros par an pour chaque manager pour du coaching. Donc en fait, tu mets des actions sur tes valeurs. L'ambition que j'ai, c'est devenir la plus grosse boîte sales tech au monde. Donc il y a une ambition dans la boîte. Si tu es ambitieux, tu nous rejoins. Team Spirit, tu vois, j'ai les gens à distance, mais tous les mois, je les fais revenir au bureau, tous les mois et demi, pour créer du lien. On fait un team building, on est ensemble, on met pas mal d'activités, on fait tout pour qu'on ait une full transparence avec les personnes et qu'elles s'imbriquent bien. Pour aller avec le Team Spirit, quand on recrute une personne, on fait valider par 2 personnes ou 3 personnes de la boîte, pour être sûr que ça fit. On a Radical Candor. Tu vois, moi, je suis très transparent, je dis tout à mes équipes, et en fait, je veux qu'ils me disent tout aussi. Donc, en fait, si ça va, tu me le dis, ça va pas, tu me le dis. Mais en fait, on se dit les choses, on mâche pas les mots. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui permet de faire avancer la boîte. Donc, il y a l'ownership. J'aime pas le micromanagement, je déteste ça. Fais tes missions, si tu as besoin d'aide, tu me demandes, je vais te faire des intros, mais je vais t'aider. Mais moi, je te micromanage pas. Je te recrute pas pour te dire ce que tu as à faire dans les détails. Si tu es junior, bien sûr, on va te former. Mais par contre, si tu es senior et tu as de l'expertise, il faut que tu sois meilleur que moi, fais ton travail. Moi, je vais pas t'apprendre à le faire. Moi, je suis généraliste. Je suis pas expert dans un métier. Et donc, en fait, ça, c'est la philosophie qu'on a et qui permet de créer ta culture.
Et donc là, tu évoques les valeurs de Zelic. C'est bien parce que du coup, ça nous permet de faire la transition vers Zelic, justement. C'est là que je voulais t'emmener. Ces valeurs, vous les avez définies avant même de recruter les gens, si je comprends bien. Parce que là, vous êtes deux cofondateurs, c'est
On est
ça?
trois.
Vous êtes trois, hein? Ok.
Ouais, il y a Guillaume, Victor et moi.
Ok.
Et en fait, on a défini les valeurs avant d'avoir la première personne dans la boîte.
Et là-dessus, vous vous êtes mis, j'imagine, d'accord. Comment ça s'est passé, du coup, la définition de vos valeurs?
C'était un meeting de 2 jours. C'est un peu nos OKR au trimestre. Et pendant ces OKR, un sujet qu'on avait, c'est la définition des valeurs. Et donc, on a fait voter les valeurs pour que tous les trois, on soit déjà à l'aise. Parce que si tous les trois, on n'est pas à l'aise avec nos valeurs, eh ben, on n'arrivera pas à les répercuter sur l'équipe.
Ouais, bien sûr.
Et donc, on s'est mis d'accord. Ça a duré 2 jours, pas que pour discuter des valeurs, mais pour discuter de la strat de la boîte sur les 3 prochains mois. Mais voilà, ça a été fait sous un format OKR. 2 journées d'off-site pour qu'on soit raccord. Et il y avait des désaccords, hein, sur certains points. Et on a dû faire des compromis pour que tous les trois, on soit OK.
Ça, c'était avant de créer l'entreprise ou vous aviez déjà levé les fonds, vous apprêtiez à recruter, c'est à quel moment?
Bah, en fait, j'ai communiqué la levée il y a un mois, mais en janvier, j'avais déjà levé les 5 millions.
Ok.
Alors, en fait, donc c'était le jour où j'ai lancé la boîte, j'avais l'argent.
Ok,
Donc,
d'accord.
tout s'est fait en même temps.
Ok, ça se tient. Tu t'évoquais les OKR justement à l'instant, vous utilisez les OKR vous?
Ouais, on utilise des OKR en interne.
Ouais, comment est-ce que vous les utilisiez déjà chez Ivancy ou pas?
Ouais, on l'utilisait déjà chez Ivancy.
Ok.
Donc, j'ai un peu plus de 3 ans d'expérience dessus. Le format, il évolue constamment. Et après, sur les OKR, bah, généralement, c'est 2 jours.
Ok.
Une demi-journée pour voir les OKR précédents. Une journée pour voir les OKR à venir,
Ok.
les valider ensemble et faire des interventions externes par thématique métier, par problématique qu'on a dans la boîte. Ensuite, ce que je fais, c'est que je définis les OKR de la boîte, de l'entreprise. Je laisse les managers définir les sous-objectifs pour leur pôle. Ensuite, on se met en raccord. Et une fois que c'est terminé, qu'on les a validés, on les présente à l'intégralité de la boîte.
Ok.
Ça dure 1 heure. Et après, on les rend accessibles à toutes les personnes.
Ok, trop bien. Et donc chez Zelig, vous avez mis en place les OKR dès le début, du coup ça fait partie même de votre culture finalement. Parce
Premier
que
jour.
ouais, quand tu parles d'ownership, finalement les OKR, ça va aussi dans ce sens. où tu laisses chacun définir ses sous-objectifs. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Tiens, ça m'intéresse.
Bon, on fait Excel, hein.
Ah ouais, sur Excel, ok.
En fait, moi, je le fais sur Excel et après, j'ai mon CEO qui va mettre ça sur Notion.
Ok.
Et sur Notion, tout le monde a accès. On peut mettre les pourcentages, on les update en temps, voilà, dès qu'on peut en temps réel. Mais voilà, on n'a pas d'outils savants sur le sujet, pas aujourd'hui.
Ok. Et du coup, là, Pardon, je reviens un peu sur ce que tu expliquais. Donc, vous prenez 2 jours pour, j'imagine, déjà Team Spirit, donc se réunir, faire le point sur vos OKR. Donc, où est-ce que vous en êtes des OKR du trimestre qui vient de s'écouler? Donc, si je comprends bien, c'est tous les trois mois, c'est ça que vous prenez 2 jours ensemble?
Exactement. Ouais, c'est ça.
Ok. Et là, vous réunissez toute l'équipe de manager.
Non, tout le monde, toute la boîte.
Toute la boîte, ok.
Tu parles pour les réaliser ou les communiquer?
Non, je parle pour les définir. Tu sais, tu as
Ah
expliqué que
ouais,
vous preniez 2 jours pour.
juste les managers, juste les
Ok,
managers.
ok. Et ça, vous le faites dans quel cadre? Vous partez en séminaire? Comment ça se passe?
Non, en fait, j'ai des bureaux à Paris, là je suis dans les bureaux.
Ok.
Attends, je vais te montrer la petite rapidement, tu vois.
Vous êtes tous dans Paris? Ah, c'est
Ouais,
beau.
on est à Bastille.
Trop bien.
C'est gentil. Mais en fait, on est 90% en full remote.
Ok.
Donc, tu as des personnes en France et même hors France. Donc, mais pour les OKR, ce qu'on fait, on prend un espace de travail, tu vois, une salle de réu, en dehors des bureaux,
Ok.
et on travaille dedans.
Ok. Et vous passez donc 2 jours à faire le point sur les OKR passés, vous mettre d'accord. Ok. Super.
Avec des invités, le soir, on fait un team building, on fait resto ensemble, on passe un peu de temps pour apprendre à mieux se connaître aussi.
Mais même pour les restos, vous restez entre managers, c'est ça? Ou c'est vraiment. Parce
Entre
qu'après,
managers.
ouais, quand il y a trop de monde, après, ça devient vite l'enfer. Ok.
On le fait avec les équipes, mais c'est quand tout le monde vient au bureau. Donc on fait un resto tous ensemble et une activité. Mais pour les OKR, juste la définition, c'est juste entre nous.
Ok. Et si je fais le pont entre OKR et Radical Candor, j'aime bien aussi cette notion de Radical Candor. Co comment est-ce que. Parce que c'est pas donné à tout le monde, tu vois, d'oser dire les choses de cette manière, d'être très franc, très transparent. Comment est-ce que tu fais pour que le dernier collaborateur qui est arrivé, le dernier stagiaire qui rentre dans la boîte, il ait les cojones de te dire à toi, Dorian, de manière tout à fait. Radical Candor, du coup, les choses.
Ben, je reste proche des équipes. Ensuite, j'ai un point disponible dans mon agenda tous les mercredis matin où je me connecte.
Ok.
Donc même si personne vient, en tout cas je suis connecté, mais généralement tu as une, deux, trois personnes qui se connectent. Et en fait, je réponds à toutes les questions.
Ok.
Je montre qu'on peut avoir une proximité et je montre que je suis à disposition pour aider l'intégralité des équipes. Donc et après je vais à la pêche aux infos aussi. Tu vois, je vais à la pêche aux infos pour leur demander ben, comment ça se passe. J'ai un rapport d'étonnement qui est envoyé tous les mois à mes équipes
Ok.
pour qu'ils me disent comment ça s'est passé dans la boîte après le premier mois d'onboarding. Et donc ça me permet également de m'améliorer, quoi.
Oh, donc vous êtes déjà bien structuré. Vous êtes
Ouais, ouais, ouais.
trois fondateurs, c'est ça? Donc toi, Dorian, enfin, quelle est la casquette de chacun du coup?
Ouais, moi je suis CEO et président.
Ok.
Ensuite, il y a Guillaume qui est CEO, donc chef des opérations
Ok.
et qui s'occupe des opérations du produit. Et on a Victor qui est CTO et qui s'occupe de la partie technique et data.
Ok, très bien. Et donc dans l'équipe, il y a une majorité, 50%, c'est ça, de développeurs?
Ouais, c'est ça exactement.
Ok. Donc c'est quoi votre roadmap pour Zelic? Parce qu'on est à peine à première année, grosse levée de fonds, vous recrutez. C'est quoi Zelic dans 10 ans?
C'est le Salesforce de demain en plus facile.
Ok. C'est bien, rien que ça. Donc vous voulez vous étendre dans le monde entier, c'est ça le plan?
Ouais, alors, en fait, la vision que j'ai, c'est le métier de commercial est un métier difficile avec beaucoup de pression. Et il y a tellement de choses qui empêchent le commercial de progresser ou d'atteindre ses résultats. La bonne donnée, la bonne gestion de son pipe, la bonne façon de démarcher. Et je veux vraiment regrouper tout en un. Et donc avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut vraiment améliorer la façon de travailler. Et donc c'est imbriqué dans mon produit avec des icebreakers, des templates générés automatiquement, l'amélioration de tes emails, la data qui va être poussée automatiquement en fonction de ton ICP. Et en fait tout ça, donc on le réunit dans une seule et même solution pour créer le leader de demain. On est sur un marché où, donc sur le B2B, où toutes les boîtes B2B, généralement des commerciaux, généralement, je dis bien généralement, parce qu'il y a du product-led growth où il n'y en a pas. Mais on a un marché qui est très profond, qui répond aux besoins des commerciaux dans tous les pays au monde, et avec un boulevard. Et donc, j'ai décidé d'aller challenger un peu des gros acteurs. Et dans les gros acteurs, il y a Salesloft et Outreach, et Apollo. Et c'est face à eux que je vais être d'ici quelques mois, hein, parce que d'ici septembre, je vais être prêt à vendre la solution. Et on a eu 1000 boîtes inscrites sur la bêta en une semaine.
Incroyable.
Et là, on a accepté 30. Donc, on a fait une présélection de 30 boîtes qu'on met dessus pour récolter les feedbacks et améliorer le produit.
Comment vous avez réussi à obtenir comme ça 1000 boîtes qui s'inscrivent en une semaine? C'est fou.
Ouais, je pense qu'on a fait un peu de bruit avec la levée.
Ouais. Attends, ça explique pas tout une levée parce que, enfin, c'est beau. Vous avez lancé sur Product Hunt ou comment ça s'est passé?
Non, même pas. Hein. Non,
Même
non.
pas. Ah, c'est vraiment les RP autour de la levée en fait.
On a eu un peu plus de 10 articles de presse. Moi, j'ai fait quelques posts LinkedIn. J'ai dû faire 300, 400 000 vues sur mes posts.
Ok.
Et je pense que ça a drainé du trafic, quoi.
Ah putain, c'est beau. Bah, félicitations, pardon,
Ouais,
je
merci.
dis des gros mots dans l'enregistrement, c'est pas cool. J'aimerais bien revenir, tu sais, sur. Tu parlais de la vision à l'instant, justement, et je trouve ça intéressant parce que du coup c'est la vision à long terme, tu vois, tu vas pas aller battre Salesforce le mois prochain, peut-être pas l'année prochaine non plus, même si je vous le souhaite. Comment est-ce que tu fais pour raccrocher les wagons en fait, pour te dire que ok, les objectifs qu'on s'est fixés cette année, bah, je sais qu'ils nous permettent d'aller dans la bonne direction. C'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple. Tu as des objectifs produits, mais surtout, moi, j'ai une maîtrise que je regarde, c'est mon ARR. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment en fait, où je vais commencer à vendre, ben, en fait, je vais regarder mon ARR.
Ok.
Et la croissance de l'ARR va définir ma stratégie, court, moyen et long terme, va définir les prochaines levées de fonds que je vais faire, les montants que je vais devoir lever. Mais voilà, mon focus, c'est juste l'ARR et ça va m'aider à avoir le développement.
Et sur l'aspect levée de fonds, justement, moi, je te challenge un peu. C'est pas. Moi, j'ai pas de parti pris, tu vois, mais avec mon associé, on était parti du principe qu'on allait se lancer bootstrap. Pour garder le contrôle à 100%, tu vois, c'est peut-être aussi une compétition d'ego, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui te fait choisir la levée de fonds plutôt que le départ bootstrap?
Ben, pour aller concurrencer les grands du secteur comme Outreach par exemple, Salesloft, tu peux pas développer une solution aussi concurrentielle que la leur en ayant 200 ou 300 000 euros en poche. Parce que tu as besoin d'une armée de développeurs, tu as besoin des seniors, tu as besoin d'aller vite pour rattraper le marché. Et en fait, si j'avais pas levé les 5 millions d'euros, jamais j'aurais pu avoir un outil qui se développe aussi rapidement que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, si tu me disais que je me lance sur un métier traditionnel, t'as pas forcément besoin d'une levée de fonds. S'il n'y a pas un aspect concurrentiel et timing, t'as pas besoin de levée de fonds. Mais dans mon cas à moi, en tout cas dans mon cas précis, je devais le faire.
Et comment est-ce que tu fais pour du coup, on change un peu de sujet là, mais comment est-ce que tu fais pour convaincre des investisseurs d'investir dans un produit qui n'existe pas encore? Tu vois, il n'y a pas encore de traction et en fait, il y a pas grand-chose.
Voilà. Moi, c'est plus mon background qui a aidé.
Ouais, j'imagine que ça aide pas mal.
Ouais, c'est plus facile. Là, ça s'est fait en 2 semaines. On a levé 5 millions en 2 semaines. Si je te parle de Ivancy, franchement, les levées de fonds, on mettait 6 à 9 mois.
Ouais, voilà.
Et on ramait, alors qu'on avait une traction incroyable. Mais c'était pas la même facilité qu'aujourd'hui. Hein.
Ouais, j'imagine. En tout cas, Dorian, c'est un super projet que vous avez. Est-ce que tu
Merci.
aurais une dernière recommandation à faire à voilà, un entrepreneur comme moi qui cherche à faire croître son business?
Ouais, j'ai deux recos. La première des recos, c'est entoure-toi bien avec tes cofondateurs et tes associés. Et la deuxième des recos que je vais avoir, n'hésite pas à prendre des verres, des cafés ou autres avec des experts qui peuvent t'aider à t'améliorer grâce à un meeting d'une heure. Je pense qu'on sous-estime l'aide qu'on peut avoir de certaines personnes expertes dans certains métiers. Et de bénéficier de la seniorité de ces gens-là peut permettre d'accélérer le business assez rapidement.
Ben, j'essaie de le faire avec le podcast, tu vois. Je t'ai pas proposé de café, mais on aurait presque pu. Dorian, je te remercie pour ta
Merci à toi.
participation. Je suis vraiment content de cet épisode. Merci pour ta transparence, pour ta franchise. Je te dis à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Salut.
Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.